Alors, bienvenue à cette soirée organisée par le CRILC, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, qui organise donc régulièrement avec la collaboration précieuse de la librairie Olivieri des rencontres d'écrivains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, le grand plaisir d'accueillir Martine Audet dans le cadre de ces rencontres et je la remercie d'autant plus d'avoir accepté cette invitation que nous avons assez rarement l'occasion de l'entendre ou de la lire en entrevue. Donc, merci d'avoir accepté d'entrer dans un rythme très différent de celui de l'écriture, donc le rythme du dialogue et de la parole. Je vais maintenant vous la présenter en vous signalant peut-être au départ que vous aurez la possibilité d'intervenir après l'entrevue, donc vous aurez l'occasion de poser vos questions et pour cela je vais vous demander de vous avancer au micro. Alors, Martine Audet est, comme vous le savez sans doute, d'abord et avant tout poète, mais dans le civil, elle travaille comme aide bibliothécaire à la Ville de Montréal. Elle a participé au Québec et en Europe à de nombreux événements littéraires, j'en nomme quelques-uns, la Biennale de poésie en Val-de-Marne, le Festival Voix d'Amérique, le Festival international de la littérature, le Festival international de poésie de Trois-Rivières, Métropolis Bleue, la quinzaine de la poésie. Et bien sûr les activités annuelles du marché de la poésie autant à Montréal qu'à Paris. Ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'elle a aussi été invitée à participer à des événements plus largement artistiques. Ça fait partie de son parcours, cette préoccupation en fait pour un dialogue entre littérature et art visuel, donc entre autres une série, en fait une série d'expositions intitulée « Invitation au voyage » organisée par les Maisons de la culture de Montréal et l'événement « Épreuve de distance » à la Galerie de l'UQAM. Alors, sur une note un peu plus anecdotique, la Grande Bibliothèque du Québec, en 2007, dans un communiqué au sujet d'une soirée « Hommage à nos poètes » à laquelle participait Martine Audet, la Grande Bibliothèque donc la présentait comme une poète de la relève québécoise, ce qui est assez paradoxal et piquant, puisque Martine Audet a publié maintenant 8 recueils en un peu plus de 10 ans. C'est une œuvre imposante. J'énumère brièvement, rapidement, les principaux titres. Elle a publié d'abord en 1996, donc son premier recueil s'intitule « Les murs clairs » aux éditions du Norrois. Ensuite, « Doublure », toujours au Norrois, en 1998, suivi de « Orbite » en 2000. L'année 2001 marque un changement de maison d'édition, donc les tables sont publiées à l'Hexagone, les mélancolies à l'Hexagone en 2003 et plus récemment les manivelles en 2006. À cela, il faut ajouter, je crois, trois projets un peu particuliers qui ne sont, à mon avis, pas du tout dans la marge de l'œuvre. D'abord, « Que ferais-je du jour ?», un recueil publié en 2003 dans la très dynamique collection poésie de La Courte Échelle, une collection qui s'adresse aux adolescents. En 2006, un recueil écrit à deux voix, « Personne ne sait que je t'aime », en collaboration avec le poète José Aclin et le musicien Michel F. Côté, puisqu'un disque compact accompagne ce recueil publié aux éditions Planète Rebelle dans la collection Hôtel Central, et je crois que c'est le premier titre de la collection, sauf erreur. Enfin, elle a également illustré le recueil de poèmes pour enfants, un recueil posthume de Michel Van Skendel, « L'oiseau, le vieux porc et le charpentier, poème pour enfants devenus grands » aux éditions de l'Hexagone en 2006. Alors, c'est une œuvre qui s'est méritée plusieurs prix, le prix Estuaire des Terrasses Saint-Sulpice pour « Orbite » en 2000, le prix Alain Grandbois de l'Académie des Lettres du Québec pour « Orbite » toujours en 2001, et le prix Alphonse Pichet, auparavant, en 1993, pour une série de poèmes publiés dans un ouvrage collectif, « Poèmes du lendemain ». Alors, j'ai donné à cette rencontre le titre suivant, Poésie, cet implacable peu. C'est un titre inspiré de quelques vers de Martine Audet. Le cœur de nos vies bat au vent, ce peu implacable n'a jamais cessé de compter. Et si j'ai repris ces vers pour les appliquer à la poésie, c'est pour insister sur le fait que cette œuvre me semble tendre non pas vers le presque rien, non pas vers une sorte de néant, mais cherche à imposer le peu, un peu implacable, un peu qu'on ne peut pas simplement mettre de côté. Je dirais que c'est presque, il y a une charge affirmative dans ce peu, une charge affirmative qu'on retrouve ou dont on retrouve la force dans l'écriture. Pour présenter en quelques mots cette œuvre et pour terminer là-dessus avant de laisser la parole à Martine Audet, je dirais que l'œuvre de Martine Audet, c'est une œuvre sombre et lumineuse à la fois. La lumière est absolument centrale. Et en fait, c'est une poésie qui vacille un peu entre les deux, entre le sombre et le lumineux. Comme elle vacille aussi sur le plan temporel, je dirais que c'est une poésie qui explore davantage le temps que l'espace, un temps présent, plus que présent, extrêmement présent, à la frontière de l'instant, pourrait-on dire, peut-être sauf dans le dernier recueil, Les Manivelles. C'est aussi une écriture elliptique et dense qui est marquée par une très grande humilité, une humilité revendiquée, où le sujet se fait volontiers discret à travers un « nous » qui est omniprésent dans l'œuvre, et où les vers se présentent comme des propositions de monde dans lesquelles on voit de façon très sensible à la fois un étonnement premier et une certaine perplexité, un peu inquiète. Par exemple, dans ce vers tiré des tables, je ne reconnais pas ce que je vois. L'œuvre de Martine Audet est traversée par l'importance de la vision, mais c'est une vision avec faille, avec fêlure, dont on ne se débarrasse pas jusque dans les manivelles. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est bien sûr d'essayer de faire un survol de ce parcours à travers l'entièreté de l'œuvre depuis 1996, à la fois l'œuvre bien sûr, mais aussi la réflexion de Martine Audet sur l'écriture. Auparavant, donc, je vous propose de vous remettre en mémoire quelques poèmes tirés des manivelles et des mélancolies. Donc, je vous laisse tout d'abord la parole.
Merci. Peut-être avant de lire, vous remercier d'être là, remercier le CRILC pour cette invitation. J'ai pas l'habitude de parler en public, peut-être même pas l'habitude de parler tout court. Donc, je sais pas si j'arriverai à rendre intéressant le fait de passer des heures à déplacer deux mots sur un écran, puis à trouver ça plaisant en plus. Mais on va essayer. Et je remercie Karim qui a accepté d'animer cette discussion. Donc, les premiers poèmes sont tirés de Les Manivelles. Dans l'attente des couleurs, la pluie grattait le sol. Nous nous souvenions d'un fruit essuyé sur le revers du jour. Comment nous adosser au vent? Nous feuilletions les dentelles d'immobilité. L'opération décidait des versions conservées. Supporterait-elle les montants d'un regard hypnotique, la simple clarté, l'ouverture des fenêtres? Une preuve musicale comportait l'enfance. Nous avions éliminé ce moment. Sous les lunes humides et lentement cires, nous léchions les feuillages, l'épais bourdonnement des forêts, et sans y prendre garde, des instruments étranges nous vidangeaient le cœur. Nous courions, dépassant les morts, mais les danges ruisselants. Étions-nous si légers? Avions-nous failli? Nos pas feignaient quelques étoiles, simple ébauche, un malheur peut-être, une audace. Mais de nulle part fusait la lumière, tes doigts hors des merveilles. Et par désœuvrement, ou cette douleur entre les choses, nous laissions nos rêves nettoyer l'étreinte. Entendions-nous nos corps perdre leur nuit? Faiblement, feuilles, en s'éveillant, les mots changeaient de bouche. Des cordes près du cœur nous criaient de baisser les yeux. Convenait-il, les mots? L'eau, avant le soleil, d'anciens miroirs où tu voulais aller, tendait le fil d'aube, et c'était les éclairs d'un nom, non, cela perçait les tempes, à peine au dos de bêtes aimées. La mort tirait mal. La fenêtre ou le sein tirait mal vers le haut. L'acier des plus hautes couleurs, ce vol furtif, le poème est une main, d'un même souffle le large, les neiges et des haleines peintes pour nous, un suspens, presque rien. Nous entendions ce qui manque à l'amour. Cela faisait un peu moins de vide dans le vide. Le temps parfois nous rapportait des eaux. Le détail d'un mouvement qui soulevait les roses, à répétition nos plus rudes prières, leurs bêtes humides et affolées. Était-ce pour répondre du vide, du fin calibre des merveilles? Nous ne savions qui parlait, qui, aimé en nos nuits, frôlait la rouge découpe d'obscurité. Et dans les mélancolies, j'ai choisi un extrait qui est dans la 9e mélancolie. Elle a pour titre « Le jour reste à l'intérieur ». On ne touche pas au mur des 16 ans. On apprend à compter en échappant au feu. Sans cesse, tout commence, jamais ne recommence. On touche à l'ignorance. Au milieu de rien, quelque chose. On ajuste des mots aux écarts de conduite. Matière et reflet basculent dans un coin. Comment nommer ce que l'on aime? Au début, il est vrai, on ne parle de rien. On n'a qu'une seule idée pour l'enfance. On dévalise des yeux. On lance des mots. On croit deviner. Les mots touchent terre. Que croit-on deviner? On fixe le plafond, on bouge les doigts avec prudence. Il se peut que l'amour aide à ne plus être. On ne dit pas le temps qu'il fait. On empile les journaux. On ne tolère que quelques lumières à la fois. Écrit-on que la mort n'atteint jamais son but? Pour aller vite, on s'arrête. Voilà.
Alors, merci. Peut-être pour lancer la discussion, je poserai une question un peu générale. Lié à cette formule, le poète de la relève, qui s'explique peut-être par le fait que vous avez commencé à publier relativement tard. En fait, le premier recueil remonte à 1996. Qu'est-ce qui explique ce long silence?
C'est ça, j'ai commencé au début de la trentaine, en fait, à écrire, après avoir eu à faire un travail... disons personnel, assez difficile, avoir eu à défaire beaucoup d'entraves lié à l'histoire de la famille, à ma vie, qui peut-être pas les défaire complètement, mais en tout cas les rendre suffisamment larges pour que je puisse respirer à l'intérieur de ces entraves-là. Et je me suis retrouvée donc au début de la trentaine apaisée, mais comme devant un vide en fait. Peut-être que c'est ça les murs clairs d'ailleurs. J'avais un peu le choix de soit m'écraser sur ce mur-là de vide, ou soit l'éclairer et essayer d'y poser des signes qui me permettraient de peut-être commencer à comprendre ce que j'étais dans le monde et ce qu'était ce monde autour de moi, puisque ce que j'avais cru être moi, c'était des faits. Et en même temps, pendant cette période-là, le hasard ou la chance a voulu que je lise dans une critique d'un journal quelques vers de François Charron qui m'ont beaucoup plu, mais qui m'ont surtout rappelé combien l'expérience de la poésie avait été pour moi à l'adolescence un bouleversement total. Quand au secondaire, un professeur nous a lu pour la première fois du Anne Hébert et du Saint-Denis Garnon, du Nelly Gant aussi, tout à coup j'avais eu l'impression qu'il y avait un langage qui était pour moi, que c'était possible que je puisse me glisser dans un langage qui me permettrait de mieux structurer peut-être ces espaces intérieurs, de savoir ce que je faisais dans ce monde-là, de nommer les choses et donc de les rendre accessibles. Donc au début de la trentaine, je me retrouve à la fois avec ce rapport à l'urgence de l'adolescence, cette joie aussi de la poésie et une espèce d'état, vous avez parlé d'humilité, mais je pensais assez... ce serait assez juste, c'est-à-dire un état où on ne sait pas ce qu'on est. On est dans une espèce d'ignorance, mais une ignorance ouverte, qui va vers quelque chose qui serait vive, disons. Et les deux se sont greffés et j'ai commencé à écrire et j'ai commencé en tâtonnant à lire tout ce qui me passait sous la main en poésie. À l'époque, il y avait beaucoup de librairies qui avaient des fonds de poésie, dans les bibliothèques aussi, par les anthologies, en allant un petit peu partout. Et l'écriture s'est placée dans ma vie de cette façon-là. Au début, j'ai commencé à écrire un peu en trouvant toutes sortes de subterfuges, comme s'il fallait que ça soit un peu en cachette de moi-même encore, comme si les entraves étaient un petit peu trop fortes. Mais tranquillement, ces résistances-là, on dirait que je m'en suis servi plutôt que d'être étouffé par elles et elles se sont intégrées dans mon écriture de diverses façons. Ça a été ça. Et ça a donné le premier recueil en 96, principalement Les Murs Clairs, qui, je pense, porte... de façon intuitive et malheureusement souvent maladroite, mais porte quand même un peu les grandes pistes de mon travail jusqu'à présent, mon travail d'écriture qui est davantage autour de la perception, donc comment on appartient au monde, et c'est une question qui me poursuit, même si des fois je flirte avec le pourquoi, là, ça reste quand même de l'ordre de ce questionnement sur comment appartenir, donc comment dire. Qu'est-ce qu'on est comme être qui voit? Vous parliez du regard tout à l'heure et qui est vu dans ce monde. Et évidemment, l'étonnement vis-à-vis la prise de parole, les conséquences de cette prise de parole, la conscience de sa mort. Mais aussi des choses plus concrètes. En devant les relire pour ce soir, je me rendais compte que on retrouve déjà l'utilisation des mots simples, la question de la répétition, du même qui va vers le différent, du différent vers le même. Des choses que je vais travailler, que je travaille jusqu'à maintenant.
Et effectivement, dans votre œuvre, vous parliez de répétition des mots simples. Il y a une très, très grande constance du premier recueil jusqu'au dernier, le retour de mots, en fait, que ce soit la lumière, le soleil, le vent, la pluie, des éléments extrêmement naturels mais bruts sur lesquels vous revenez sans cesse. Est-ce que c'est un travail conscient de de modifications successives ou c'est le sentiment finalement de ne jamais avoir fait le tour de ces visions fugitives?
C'est un peu tout ça. C'est vrai que j'ai fait un choix dès le départ de mon sein, de mon souvent éculé même par rapport à la poésie, nuit, jour, etc. Mais je l'ai fait parce que c'était les moyens que j'avais, c'est-à-dire que je pense que notre poésie part un peu du mouvement de notre être, du mouvement de notre parole, et la mienne c'est le silence à l'intérieur de moi, autour de moi, donc c'était d'arracher quelque chose à ce silence-là. Et ce qui me paraissait, ce qui est venu spontanément au départ, c'était des mots qui étaient à la fois les plus près et hors contexte, c'est-à-dire que ça me prenait une certaine distance. Je n'aurais pas pu parler des voitures qui traversent devant chez moi. Ça me prenait donc des mots qui étaient à la fois très évocateurs et en même temps très abstraits, qui me permettraient à la fois de pousser davantage ce que je connais de chaque mot au fur et à mesure du travail et ce qu'ils connaissent de moi par le fait même. Donc, à chaque fois que j'écris un poème, je sais bien que je reprends les mêmes mots, mais pour moi, c'est un commencement. Il n'y a plus rien qui a existé avant le temps de ce poème-là. Après, c'est autre chose, là, mais le temps de ce poème-là. Donc, j'ai toujours l'impression d'être dans un début de parole, une parole qui risque toujours de se briser, mais un début néanmoins de quelque chose. Et la répétition est donc à la fois consciente, c'est une forme que je choisis de pousser, parfois à l'extrême, comme dans les tables, mais et pour moi, c'est à la fois de l'ordre d'une limite qu'on a, on fait avec ce qu'on est, et qui nous permet d'aller plus loin, donc une limite plus féconde, et en même temps, la possibilité, puisque c'est toujours le même mot, mais qui c'est jamais tout à fait identique, de toujours pousser à partir du connu vers quelque chose qui serait de l'ordre de l'inconnu, peut-être pas dans le sens mystique, là, mais de l'inconnu dans le sens de nouveaux possibles, de nouvelles compréhensions ou de nouvelles approches de l'expérience de soi et du monde.
Je vais faire le lien avec une entrevue que vous aviez accordée à David Cantin en 2003 où vous disiez que votre apprentissage s'est fait littéralement mot à mot. Et aussi un vers des mélancolies. Dans l'ordre des choses, les mots arrivent bien avant moi. Est-ce que ce rapport très, très particulier à la langue vient du sentiment, on en a parlé juste avant l'entrevue, d'être en quelque sorte une autodidacte en poésie? Et par rapport au langage?
Par rapport à la poésie, c'est peut-être vrai. C'est-à-dire que, comme je venais de nulle part, quand j'ai commencé à écrire au milieu des années 90, la plupart des poètes qui commençaient ou qui avaient commencé un peu avant avaient quand même été liés au milieu, ne serait-ce que par une formation universitaire assez solide ou terminaient ces formations-là. Donc, peut-être eux savaient-ils ce que la poésie attendait un peu, ou ce qui se faisait pas, ou tout ça. Mais moi, je suis arrivé avec un début de lecture, avec mes mots, avec, j'allais dire, mes gros sabots, mais sans idée arrêtée. Ça a des avantages, des désavantages, mais c'est donc le vocabulaire que j'ai choisi de travailler. Ça s'est fait parce que c'était celui qui me semblait pouvoir m'appartenir, que je pouvais maîtriser. Excusez-moi, mais je pense que la question portait un autre pendant.
En fait, dans nos conversations, ce qui me frappait, c'est ce sentiment très fort chez vous, justement de sortir de nulle part, presque comme s'il n'y avait pas de point d'origine par rapport au langage. Et c'est la question du travail autodidacte, finalement, sur la poésie, comme s'il fallait vraiment recommencer à neuf le travail. Et il me semble que ça touche à la fois votre rapport à la poésie et au langage.
Oui.
Mais je pense que vous y avez répondu...
Peut-être un peu.
J'aimerais qu'on entre un peu dans l'œuvre, d'abord de façon un peu générale. Vous constatiez dans une entrevue que doublure, orbite et les tables formaient une sorte de cycle. Qu'est-ce qui se modifie avec les tables, qui est effectivement un recueil un peu à part, très dépouillé en tout cas, mais où les tables, à la fois la table d'écriture de l'illustration en couverture, mais aussi ce que vous appelez dans le recueil les tables des mots, où permettent de mettre, semble-t-il, les choses un peu à plat. Est-ce que c'est de cet ordre-là où le sentiment de passer à autre chose vient de...
Cette remarque-là était du journaliste, là. Mais j'ai pas eu l'impression de passer à autre chose, mais de pousser plus avant dans le travail d'écriture même. Dans les tables, les formes commencent à se poser comme un élément plus important. Quand on écrit un poème, on nomme et on compose, c'est sûr que couper les vers, la ponctuation, tout ça fait partie d'un travail formel aussi important que les mots qu'on choisit. Mais dans les tables, peut-être parce que j'avais choisi déjà comme forme de m'appuyer sur le mot table dans chaque poème, avec tous les sens que porte ce mot. Mais j'ai aussi choisi par moments, on voit apparaître des formes différentes, comme dans la question des épreuves ou des poèmes qui portent des espèces de petites queues de poèmes, là, de poèmes dans le poème. C'était une façon pour moi de commencer à éprouver ma langue, de voir si ce que j'avançais tenait toujours, et d'ouvrir aussi des nouveaux possibles pour pas entrer dans un appui qui deviendrait un réconfort. Donc, je pense qu'à partir des tables, le travail formel plus apparent s'est développé et est devenu... jusqu'aux manivelles, on verra après, quelque chose qui m'importe et qui me fait avancer beaucoup. C'est comme un peu un fil et une rupture, c'est-à-dire que ça place des limites qui me permettent d'aller plus loin.
Je voudrais vous entendre sur certains des titres. Les titres de vos recueils sont assez singuliers, je pense en particulier à Orbite et aux manivelles. Est-ce que le titre chez vous, c'est simplement un point de départ? Est-ce que c'est un mal nécessaire ou c'est quelque chose qui vient structurer tout le recueil? Parfois, c'est très discret, comme dans Doublure, en tout cas. Le titre s'inscrit de façon très, très diffuse dans le recueil, mais dans les manivelles, il me semble que cette fois-ci, c'est un titre qui se prête à un jeu formel à l'intérieur du recueil où Orbite, d'une certaine façon, c'est presque un titre ironique parce qu'on a l'impression que tout l'enjeu du recueil, c'est la perte du point de gravitation. On a l'impression justement que les planètes s'éloignent, se perdent un peu dans une sorte de cosmos où même les lois premières se sont déréglées. Est-ce que peut-être vous pouvez nous...
Les titres, pour moi, viennent souvent dans le travail même. Mais d'abord, jusqu'aux manivelles, ils appartiennent au texte, au cœur du texte. Des fois très clairement, des fois de façon plus diffuse, mais à chaque fois je cherchais un titre qui articulerait aussi le travail même du recueil. Vous parliez de doublure, c'est vrai que le mot est utilisé une fois dans le poème, et c'est un mot que je pense que j'ai jamais réutilisé d'ailleurs, mais la définition de doublure donne des pistes de lecture qui pour moi n'étaient pas de l'ordre de la contrainte, mais quand même me permettait de travailler, à savoir si on pense à une doublure, on pense à la doublure au théâtre, par exemple, au cinéma, qui nous remplace devant la mort, qui nous permet d'affronter le risque. On peut penser à la doublure d'un vêtement qui donc s'imprègne du vivant, des odeurs, des traces du corps, mais en même temps nous protège de l'extérieur. où ce qui était intéressant pour moi, la doublure en musique et, si je me souviens bien, par exemple, des instruments différents qui font la même note en même temps et l'inverse, donc le... cette question du même qui fait du différent et du différent qui fait du même. Et à chaque fois, ça a été un petit peu ça. Dans Orbite, oui, c'est le mouvement déréglé, c'est le mouvement un peu de ce que Cézanne disait, la nature est à l'intérieur, donc, mais c'est aussi l'orbite de l'œil qui porte le regard et qui se trouve à porter l'absence du regard aussi, puisque c'est un recueil qui va vers la disparition. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de trouver un titre qui où le titre s'est imposé comme une façon de poursuivre l'articulation du recueil. Dans le cas des manivelles, bon, là, il y a une petite variante. Le mot n'est pas dans le recueil, sinon par la main, qui appartient à l'origine du mot manivelle. Et on sait que Paul Celan disait qu'il voyait pas de différence entre une main et un poème. Donc déjà, si on pense à une main, une poignée, un poème, donc quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, qui cherche à faire advenir du sens. Le travail de ces poèmes-là m'a amené aussi à une disposition graphique qui n'était pas au départ l'idée de représenter la manivelle, mais qui a amené cette représentation-là, mais qui était plutôt l'idée de ralentir la lecture, puisque le mouvement des manivelles était pour moi très rapide, était lié à une espèce de spirale qui ramassait tout et se cassait constamment. Je sentais le besoin de rétablir ce silence, de commencer peut-être à aimer ce silence qui m'avait... m'enferme toujours beaucoup, mais commencer à le faire respirer et aussi peut-être en montrer l'importance dans la poésie, c'est-à-dire que c'est toujours du silence qu'on creuse pour faire remonter ce qui a été ou ce qui n'a pas été dans le cas des manivelles.
Faut peut-être rappeler justement que le recueil Les Manivelles, donc sur la page de gauche, on trouve un seul vers et tout le reste du poème est sur la page de droite, d'où une possibilité d'un rapport. Vous avez évoqué Cézanne en disant la nature est à l'intérieur et en fait ça me permet de faire le lien avec ma prochaine question. Il me semble que votre œuvre précisément ne va pas tant du côté de... Je ne sais pas si vous allez être d'accord du côté d'une écriture de l'intime, mais plutôt d'une écriture qui irait vers l'extrême intérieur. C'est pas une poésie qui nous fait faire le tour du propriétaire, si je peux dire. C'est pas une poésie de la circonstance au sens où on peut en parler à propos de Marie Huguet ou de Michel Beaulieu. C'est vraiment une poésie où justement les moments qui sont saisis de façon tellement fugace à travers un trait de lumière que tout nous dirige finalement vers le regard. Du jeu du poème, et je pense entre autres à certains vers où justement on voit ce regard à l'œuvre comme l'ombre trace sa première fenêtre dans Personne ne sait que je t'aime, ou bien Avec précaution je m'approche de la fenêtre un instant percé pour entendre, comme si on avait l'impression que l'espace du regard, c'est-à-dire la fenêtre qui projette le regard vers l'extérieur, c'est vraiment une fenêtre qui va bientôt disparaître, qui est fonction de la lumière, qui est fonction, le paysage n'est pas donné, il est entreaperçu. Et en fait, la question que j'aimerais vous poser, finalement, c'est quelle est l'importance pour vous du regard dans l'œuvre et quel est le mode de ce regard? Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce qu'il y a un péril?
Je pense que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur quand j'ai commencé au début de la trentaine à écrire, il y a un vers dans Orbite qui dit quelque chose comme c'est parce que j'ai dû les relire là évidemment qui dit maintenant que je suis libre de mourir, je regarde et je pense qu'effectivement c'est le regard qui a fait l'avancée de tout mon travail et non pas tant la parole. C'est, pour moi, la poésie, c'est de l'ordre, c'est comme un objet. J'ai l'impression, curieusement, par rapport à ce que vous avez dit sur le temps, d'être davantage dans l'espace. J'ai l'impression de former un objet qui, pour moi, est très visuel, mais pas lié à une observation ou à une description des choses, mais à un objet qui serait fait avec le langage et qui articulerait toutes les couches, les sous-couches de notre être, pour essayer de comprendre à nouveau. Et ça passe par le regard, peut-être parce que l'histoire de ma famille est du côté du regard, je ne sais pas. Mais c'est toujours dans cette idée qu'on est un être qui voit et qui est vu, et je suis toujours dans cette position, en tout cas jusqu'à présent, toujours dans cette position d'apparition-disparition. Qui me fait à la fois écrire et me taire, qui me fait être toujours dans une parole un peu sur le bord de rompre, mais qui est, comme vous le disiez, d'accord du peu, d'accord de l'apparition-disparition, du questionnement qui amène pas bon, quelque chose de très abondant, mais toujours dans cet acharnement à découvrir, à pousser plus loin les possibles, à poser la poésie comme un autrement, comme une possibilité de vivre ou d'aimer qui soit autre. Ceci dit, je pense qu'on n'est jamais, je le dis sans prétention, mais on n'est jamais à la hauteur de ce qu'on écrit. Il y a un étrange décalage parce que l'écriture, c'est quand on écrit qu'on sait le plus ce qu'on est en train d'écrire, de dire, et ça nous amène dans des zones qui sont de l'ordre de l'espérer, de l'ordre du devenir. Et c'est bien que ces zones tout à coup existent par l'écrit. On pourra y tendre, mais comme être humain, on se trouve toujours dans un décalage, ce qui fait que l'écriture va être beaucoup devancer, par exemple, ce que je suis en mesure de dire ce soir, par exemple. Je m'en excuse.
En fait, l'importance que je voyais dans votre œuvre, l'importance du temps, c'est justement parce que c'est un mouvement d'apparaître et de disparaître, et tous les vers qui se ramènent justement à cette impossibilité de décrire l'espace ou le réel parce que matière et reflet basculent dans un coin, parce qu'au moindre vent, plus rien ne se ressemble. C'est cette espèce de vacillement continu des choses qui pointe, me semble-t-il, vers justement le moment où ça bascule. Toujours pour rester un petit peu dans la même veine, disons, un autre aspect qui traverse votre œuvre dès doublure, même les premières pages de doublure, où vous écrivez « Qui suis-je quand je tombe ?» C'est donc tout ce qui touche la tombée, et on en a parlé tout à l'heure, on pourrait presque trouver des échos sur le plan formel dans vos poèmes, dans les chutes des poèmes, mais vous y revenez à plusieurs reprises. Quelle est donc cette vie où ce qui tombe en nous, comme si on devait fatalement absorber ce qui tombe, comme si le jeu devait se l'approprier ou lui était imposé, ou bien dehors la neige tombe et je m'endors tranquille pour ne pas tomber avec elle, dans les mélancolies. Alors, quelle est cette espèce de perspective qui est introduite dans votre œuvre autour de cette espèce de menace et qui est là depuis les débuts en écriture, et est-ce que c'est encore présent? Est-ce que ça menace la voie poétique? Est-ce que c'est le bout du chemin, d'une certaine façon, cette tombée?
Mais je pense que c'est lié à la menace d'effondrement qui est là dès le départ, et qui à la fois a permis l'écriture, mais à la fois effectivement la menace. Mais je pense que tout être humain conscient reconnaît ce tremblement en lui et cette possibilité de s'effondrer autant devant la beauté, son éphémérité, que devant le terrible, bien sûr. Et c'est sans doute c'est cet élan rupture qui se retrouve dans ces poèmes-là, retenu par certaines choses. Dans les mélancolies, je pense qu'à un moment donné, je parle du ciel qui me retient de tomber, tout en spécifiant que personne ne le voit. Mais c'est presque un mouvement naturel, même dans l'écriture, de chute, de catastrophe, et qui pourtant permet la relevée à chaque fois. Peut-être que c'est ça, écrire un poème aussi, c'est avoir tout à coup l'impression de quelque chose de complet, une espèce d'immédiateté merveilleuse, un peu comme dans ces rêves où on... tout à coup, le sens de la vie nous apparaît. Il y a des rêves, on fait ça, on a l'impression de toucher le sens de la vie, puis on se réveille, évidemment, on se souvient d'absolument rien, ou ce qu'on a barbouillé correspond à rien. Il me semble que faire un poème, c'est ça, et en même temps, c'est accepter que cette unité-là sera pas possible, et donc la fêlure apparaît déjà dans le poème. C'est un peu ce qu'on retrouve dans cette question des chutes. Et qu'on retrouve aussi dans la parenthèse, que j'utilise beaucoup, je crois, comme un lieu de cassure, un lieu de défaillance, un lieu d'acceptation du dérapage, comme si, bon, le poème sur la page est assez semblable à un corps vertical, et la ligne horizontale vient se placer comme des bras pour rappeler que tout ce qui nous paraissait bien collé ensemble décolle toujours, mais qu'en même temps, ce décollement nous permet d'aller ailleurs, nous permet d'avancer davantage dans des nouveaux espaces, dans une nouvelle expérience du monde.
Une des particularités de votre écriture, il me semble que c'est entre autres ce qui la rend reconnaissable. Ce sont des, disons, je formulerais ça peut-être comme un refus du pathos, alors que, paradoxalement, donc vous avez consacré un recueil aux mélancolies, donc qui n'est pas le moindre des thèmes d'écriture. Est-ce qu'il y a quelque chose de délibéré, parce que ça semble presque un parti pris éthique, et je vais simplement donner des exemples de vers dans différents recueils où des vers qui prennent la forme de notations très brèves et très près d'une acceptation totale. Je ne sais où aller. Je lève de moins en moins la tête. Je respire pour me dissoudre très également. Je n'essaie plus rien. Je range mes papiers. Petit à petit, j'oublie de chercher. Je ne suis pas toujours la même. Et évidemment, on sent que on sent même dans la notation extrêmement objective tout l'enjeu. Est-ce que ce refus du pathos est quelque chose qui est important, en tout cas dans votre projet d'écriture, dans votre façon?
Oui, puis je pense que déjà d'avoir utilisé certaines formes, un certain choix de lexique me permet de ne pas aller vers la consolation ou vers l'épanchement, et de rester toujours dans cette... de rester concerné par la recherche de vérité, d'explorer et de pas me placer en position... sans refuser la douleur, par exemple. Il s'agit pas d'aller vers l'oubli de soi, ou au contraire, je pense que dans les mélancolies, je l'ai suffisamment prouvé, mais de chercher à approcher cette blessure-là pour ne pas être emporté par la blessure, justement, pour ne pas être emporté par la folie qu'apportera le fait d'être avalé par cette blessure-là, ou l'autodestruction. Donc, pour moi, c'est approcher, mais l'écriture, avec les moyens que j'utilise, formels et autres, permet de garder une distance, et donc, on revient au regard, peut-être, un regard qui me permet d'avancer, de continuer, de ne pas renoncer, en fait.
J'aimerais maintenant passer peut-être à la peut-être un des aspects les plus étonnants de votre œuvre, qui est tout ce qui touche le bestiaire. On en a déjà parlé. Je sais que c'est un des éléments qui me semble les plus notables dans votre écriture, c'est-à-dire dans une œuvre où l'essentiel tourne autour du minéral, du végétal et bien sûr des figures qui traversent les poèmes. On retrouve ici et là, de façon mesurée, très mesurée, l'animalité, la meute, les bêtes, les espèces. Et je vais citer quelques vers. La nuit détruit mon œil de meute. Je ne vois ici que des ciels maigres pour abriter mes chiens et leurs gueules d'orage. Ou encore, trop de chiens dans ma tête me dévorent les yeux. Et je vais lire un poème qui, des mélancolies encore, qui concerne directement la question de l'animalité, mais qui fait le lien entre animalité et poésie, ce qui n'est pas le cas partout. La mélancolie s'agite où les chiens du poème, pourpres d'abîme, d'empreintes et de loi, tendent leurs muscles pour rabattre la nuit des sous nos yeux de rose. Comment vous représentez finalement cette part de votre œuvre? Est-ce que tout ce qui touche justement l'animalité, c'est de l'ordre de la pulsion? On a l'impression aussi d'une sorte d'image irréductible, quelque chose qui est un point de fuite, qui vient amener ailleurs, qui dit ce qui ne peut être dit autrement.
Dans certains cas, effectivement. C'est-à-dire que, donc, toujours ce choix de mots abstraits qui sont presque comme des traits sur la page. Et à travers ça, il y a ce vivant qui essaie de surgir et qui, des fois, est une main. Et tranquillement, s'est installé des mots comme animaux, oiseaux, les bêtes, même les anges dans les manivelles que j'ai osé mettre avec beaucoup de réticence, mais qui finalement était le seul mot que je pouvais mettre là, qui est pour moi le pendant des bêtes, dans l'idée que Pascal disait qui veut faire l'ange fait la bête. Mais ces mots-là sont venus à la fois comme des caches. Dans le premier cas, en tout cas, c'était vraiment c'était les chiens dans les murs clairs, et c'était « j'écris des chiens ». Et c'était le mot qui correspondait le mieux à ce que je ne pouvais pas dire, à ce qui était dessus, à ce qui était de l'ordre du dessous. Et je pense que les mots que vous avez nommés appartiennent à quelque chose de plus souterrain, de plus proche de l'instinct. Et des mots cachent un peu comme... je suis pas une chasseuse, là, mais je pense qu'à la chasse, on utilise la cache pour à la fois se camoufler et mieux visé. Donc, ces mots-là servent à approcher quelque chose qui n'est pas, pour moi, si facile à approcher. Et outre les mots des espèces, il y a aussi des mots comme rose, incendie, midi, qui, pour moi, sont des mots du même ordre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le même grouillant du vivant, mais ils sont choisis, bon, c'est vrai, c'est lié beaucoup à la sexualité, à la mort, mais choisis pour leur haute intensité, en fait, une intensité que je ne peux pas aborder autrement pour le moment. Donc, je laisse ces mots placés. Mais chacun a des particularités, évidemment. Les animaux se rapportent beaucoup à ce qu'on est et à ce qu'on côtoie. Alors que dans le cas des bêtes, c'est vraiment lié davantage à quelque chose de plus confus, de plus mystérieux, de plus incarné aussi, mais incarné proche d'origine qu'on pourrait pas connaître, ou les oiseaux, bon, qui sont quand même des oiseaux qui traversent le ciel, mais qui sont aussi très liés au poème. D'ailleurs, je pense dans le premier poème du premier recueil, il dit quelque chose comme « Ainsi commence ma main », des bruits de ciel avec des trous d'oiseaux, donc il y a cette ouverture, ou dans les manivelles, je sais que vous m'aviez parlé d'un vers, Karim, qui dit « Le jour levé sur nous comme une lame d'oiseau blanc », donc qu'on peut facilement lier à l'écriture, au commencement de l'écriture, au commencement d'un poème. Ceci dit, c'est évidemment, ça résonne sur d'autres choses. Les mots sont les mêmes, mais bon, le sens se déplace à chaque fois. Je voudrais pas restreindre la chose, mais c'est de cet ordre-là, c'est de l'ordre du vivant qui, comme tout à l'heure le peu, là, qui essaie de surgir, qui traverse cette abstraction qui est ce que je vois du monde, ce que j'arrive à nommer du monde, et qui m'amène à faire bouger aussi cette vision-là jusqu'aux manivelles, où je pense que ce mouvement de creuser a fait surgir des choses qui sont plus, peut-être imprudentes pour moi, mais plus profondes, dans une autre zone, en tout cas.
J'aimerais aborder la question de votre rapport au lecteur, en fait, votre propre rapport au lecteur. Si on sort un peu de l'œuvre, est-ce que vous avez une image d'un lecteur idéal ou même du lecteur, ou est-ce que vous pensez au lecteur quand vous écrivez? En entrevue avec Catherine Mavrikakis, vous disiez que la poésie pour vous était un langage non communicatif, en fait, je paraphrase. Mais ce n'était pas de l'ordre de la communication, et je pense aussi à un vers, encore une fois, des manivelles. On aime perdre des mots que personne ne ramasse. Est-ce que publier, c'est de l'ordre de l'abandon, et c'est un abandon qui ne nous concerne plus en tant qu'auteur, en tant que poète?
Oui et non, mais je pense que écrire, c'est des élans, c'est des glissements et c'est des abandons, effectivement. Et que ça ne... Quand on présente un poème ou un recueil, c'est un objet qu'on offre. Pour moi, c'est effectivement, j'aimerais bien dire qu'il y a un échange, là, qu'il y a un dialogue, mais malheureusement, c'est mon rapport au monde est comme ça. C'est quelque chose qui est offert et qui peut être pris par quelqu'un ou pris par personne. Et la continuité va se faire comme ça. Si quelqu'un le prend, il va à la fois, s'il a envie de le lire, rallumer le poème, le remettre debout dans l'espace, mais en même temps, il va le lire avec tout ce qu'il est. Et donc, il va commencer déjà à déplacer le poème ailleurs. D'où cet effet de continuité quand moi je lis un poème, ou quand j'écris aussi, ou bon, si c'est le mien. Et pour moi, c'est important se laisser aller dans le monde. En fait, j'avais lu un jour que il semblerait, mais peut-être c'est une fiction, là, peut-être j'ai mal compris le propos, mais ça semblait être vrai qu'il y avait une ethnie en Afrique qui... pour qui la poésie, c'était très, très important. Mais ils n'ont pas d'écriture. Et donc, l'adulte développe un poème pendant une grande partie de sa vie. Le travail, je ne sais pas ce que ça peut donner. Là, j'imagine avec toute la mémoire de cette ethnie en même temps. Et un jour, et là encore, je n'ai pas de détails, arrive à un lieu qui est important pour eux, parce que c'est le lieu où on amène le troupeau. Donc, devant l'univers, tout simplement, récite ce poème qui a été l'œuvre de sa vie, en fait. Et c'est terminé, il n'y aura plus de traces de ça, il est seul quand il fait ce geste-là. Je trouve que c'est intéressant parce que, quelque part, les choses continuent dans des échos, dans tout ce travail qui a été fait par cet être toute sa vie. Et en même temps, les choses ont à disparaître, et nous y compris, donc... il y a l'acceptation aussi de ce rien qui peut être même excitant, qui n'est pas nécessairement de l'ordre de allons-y sans en ne faisant plus rien. Au contraire, ça donne envie de faire. C'est parce qu'on est mortel qu'on a envie de faire quelque chose. Et ce quelque chose, chacun le fait à sa façon. Mais c'est ce rapport-là que j'aurais un petit peu... à l'abandon des poèmes, ouais.
Je voudrais que vous nous parliez peut-être un peu du travail d'écriture lui-même. Finalement, comment se construit un recueil pour vous? Est-ce que c'est une série de poèmes qu'on écrit en parallèle? Certains vont être introduits dans un recueil, d'autres dans un autre recueil. Est-ce que, au contraire, c'est un projet sans être évidemment totalement structuré, qui est fidèle à une idée de départ? Et en fait, vous en avez parlé en entrevue, par exemple, le travail d'écriture lui-même, se lever pour sortir, essayer les poèmes dans le monde, en se les remémorant à travers des promenades à l'extérieur, en quittant la chambre et la table d'écriture, puis plus tard en les récitant à haute voix. Comment s'organise tout ça, ce travail très très concret?
Très très concrètement. Idée fixe et variation, je dirais. C'est-à-dire que commencer un projet, c'est souvent lié à des... souvent, c'est des invitations. On nous propose d'écrire pour une revue. Les manivelles, en tout cas, ça s'est produit un peu comme ça. Et j'étais dans les mélancolies. C'était pas mal terminé, donc j'avais pas envie que les poèmes des mélancolies se retrouvent éparpillés dans différentes revues. Et donc, j'ai commencé à écrire quelques poèmes qui ont pris tout de suite ce rythme particulier aux manivelles qui m'a intrigué, que j'ai laissé de côté pour terminer les mélancolies et que j'ai repris ensuite. Donc, ça s'est fait un peu par l'effet miraculeux des fois des commandes qui nous amènent dans des zones inattendues ou qui nous éclairent différemment nos démarches. Mais le fil s'installe assez rapidement. En tout cas, chez moi, j'ai un petit côté peut-être obsessif, là, mais qui me fait pousser toujours davantage le début de forme et aller plus loin. Et à un moment donné, c'est vrai, il y a des poèmes qui, tout à coup, on se rend compte qu'ils appartiennent pas à ce projet-là. On les met de côté et c'est souvent le projet suivant qui commence comme ça. J'ai pas un plan comme un romancier, évidemment, mais il y a quelque chose dans l'écriture qui me tient, comme ces cordes dont je parle parfois, et dont j'ai besoin pour poursuivre l'écriture. Donc tout va se placer en fonction de pouvoir à la fois donner de l'expansion à ce travail-là et en même temps à le maintenir dans une ligne particulière. Il y a toutes sortes de choses, évidemment. Il y a les lectures qu'on fait en même temps. Il y a des images aussi qui sont parfois des photographies que j'ai prises ou des peintures, comme dans le cas des tables, qui sont venues nourrir ce travail-là, pour moi, en confirmer l'intérêt, mais pour moi, là, on s'entend, d'aller au bout du projet.
Et par exemple, pour le travail de... presque d'expérimentation formelle dans les mélancolies, dans les manivelles, est-ce que c'était quelque chose de prévu ou ça s'est présenté? Bon, c'est particulièrement flagrant dans les mélancolies où vraiment il y a un jeu formel presque dans chacune des mélancolies avec des mots qui sont segmentés, etc.
C'est le projet qui a amené ça, c'est-à-dire que dès que j'ai compris que j'étais en train d'écrire sur la mélancolie, à même la mélancolie, j'ai commencé à faire différentes lectures pour me rendre compte que c'était qu'il y avait peut-être plusieurs mélancolies. Et j'ai donc essayé de travailler ces différents aspects de la mélancolie qui vont de l'exil intérieur à l'exaltation, bon, la perte, etc. Mais à chaque fois, il y avait... ça reste ma voix, ça reste mes matériaux, si je peux dire. Mais à chaque fois, une forme particulière se construisait en même temps que les poèmes. Et ça faisait un peu l'effet de... comme si j'écrivais 12 recueils en même temps sur le même thème. Et donc, ça a donné un peu cette impression de 12 extraits de recueils. Mais c'était absolument évident. Il n'y avait pas d'autre façon. Même la partie, bon, que les gens ont peut-être plus remarqué, qui est faite en colonne, ça a été spontané. J'ai écrit les mots spontanément, à quelques exceptions de coupure près, comme ça, parce que ce texte-là était lié à l'apprentissage et au besoin de désapprendre pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir composer à nouveau quelque chose, et était lié à cette œuvre de Burton qui traverse toutes les connaissances sur la mélancolie jusqu'au 18e siècle. Donc c'est à la fois une reconnaissance de tout ce travail et une possibilité de déconstruire tout ça pour pouvoir à mon tour construire quelque chose. D'ailleurs, j'ai ce rapport-là à tout. C'est-à-dire qu'il faut que je défasse pour pouvoir ensuite, dans la solitude, dans mon monde, refaire la chose et pouvoir y accéder. Je m'en suis rendu compte en travaillant un jour sur une œuvre visuelle de quelqu'un d'autre. Mais c'est pareil à chaque fois, en fait. devant tout, il me faut défaire et faire. Et c'est ce qui amène ces différentes formes qui, pour moi, sont évidentes, là, comme si c'était la bonne langue, le bon... c'est ça.
Je ne sais pas si vous avez défait pour ces projets un peu particuliers dont j'ai déjà parlé et dont j'aimerais que vous nous touchiez un mot. Personne ne sait que je t'aime, donc un projet d'écriture à deux voix et le petit recueil Que ferais-je du jour à la courte échelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu enfin dans quelles conditions ça s'est fait et surtout si ça ces projets ont affecté l'écriture. Je pense entre autres à Que ferais-je du jour. L'enfance est quand même, me semble-t-il, relativement peu présente dans vos recueils. Vous écrivez dans la mélancolie je n'ai que peu d'enfance à perdre. Dans Doublure, l'enfance me déchire les poignets, mais je vois assez peu de passages qui concernent du tout ce thème. Et personne ne sait que je t'aime. C'est peut-être là la question du dialogue, où il me semble précisément dans l'ensemble de vos recueils, le « je » est présent quand même assez souvent, mais prend souvent la forme métaphorique du nous, enfin très fréquemment, dans Personne ne sait que je t'aime, c'est précisément là une adresse au tu, avec en plus une sorte, pas un envahissement de la matière, mais en tout cas la matière est beaucoup plus palpable, parce que le jeu dans le fond c'était de s'échanger des poèmes par l'intermédiaire d'une chambre d'hôtel fictive, donc où on laisse un poème au poète qui nous suivra et qui doit à son tour en écrire un autre. Et là, bien sûr, c'est dans le contexte fictif d'une chambre avec valise, miroir et tout ce qu'on peut imaginer.
Oui, ben dans le cas de Personne ne sait que je t'aime, ça s'est fait en parallèle des manivelles, dans la période où on laisse reposer. Et c'est une expérience qui m'a fait beaucoup de bien, en fait, parce que c'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est pas de l'ordre du dialogue. C'est-à-dire que José et moi, on a travaillé par la poste, on s'envoyait les poèmes par la poste, et c'était beaucoup plus proche de l'ordre de ce que je disais tout à l'heure, à savoir on dépose quelque chose et l'autre peut le prendre ou non. Et parfois un vers revient, un écho, un mot. C'est sûr qu'il y a une petite influence. Je pense que José est quelqu'un qui habite le monde en poète, et pour moi ça a apporté une certaine liberté, une certaine. En fait, ça a été assez heureux comme expérience, parce que d'abord s'appuyer sur quelqu'un pour venir à bout d'un projet, c'est pas désagréable de temps en temps. Et puis cette impression, c'est ça, de lumière que José laisse, m'a beaucoup réconforté. Mais aussi parce que c'est quelqu'un qui semble dire que l'amour a survécu, et ça, c'était important pour moi de l'entendre tout à coup. Mais ceci dit, c'est ça, j'ai pas l'impression qu'on était, cette collection-là pourrait amener le dialogue, bien sûr, mais j'ai pas l'impression qu'on était dans un dialogue. J'ai l'impression qu'on était dans dans deux mondes parallèles où effectivement, quand je passais dans la chambre, il n'était plus là, si vous voulez. C'était le lendemain, c'était la nuit, c'était le jour, mais c'était pas le moment de la présence de l'autre. Mais peut-être des traces de présence, oui. Ce qui a amené un peu ce désir d'ouverture, d'aller voir s'il y avait quelqu'un d'autre, effectivement. Tandis que dans le projet pour adolescents, qui est également une commande, une invitation, ce que j'ai trouvé de particulier, c'était évidemment d'essayer de donner des mots à ce qu'on éprouve entre autres à cet âge-là, parce que je pense que c'est pas des choses qu'on règle nécessairement seulement à l'adolescence, notre présence au monde, l'inquiétude, bon, tout ça. C'était aussi ce rappel pour moi de l'importance de la poésie à l'adolescence, bien sûr, d'où l'idée de, d'ajouter quelques citations, mais l'effet que ça a eu sur... en fait, ça m'a permis de publier les Mélancolies, c'est-à-dire que les Mélancolies étaient à quelques détails près terminées, mais d'oser le sortir, d'oser le publier, je pense que c'est curieusement ce petit projet qui a amené une pause, qui a amené une espèce de réconciliation par rapport à mon adolescence, et c'est comme si j'avais pu regarder avec un peu plus de tendresse cette période m'avait offert ces outils extraordinaires et qui en même temps m'avait ramené dans un mutisme terrible qui avait amené bon des problèmes de santé mentale, tout ça. Donc ce recueil-là était comme une façon de réconcilier les choses, et ça m'a permis un nouvel élan, un élan toujours aussi peut-être désespéré, mais un élan néanmoins.
Et peut-être une dernière question pour conclure, parce que le temps passe. Est-ce que la poésie est le seul horizon pour vous, ou il y a donc dans votre travail d'écriture une tentation pour le roman, par exemple, ou bien l'essai, la réflexion sur l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose qui existe quelque part dans vos tiroirs? Ou...
pas du tout. c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ces genres littéraires, mais je me sens moi pas dans ce rapport-là à l'écriture. C'est-à-dire que je serais beaucoup plus portée par les arts visuels, et je pense que ma façon d'aborder la poésie est beaucoup plus de la démarche d'un artiste en art visuel. Quand je lis un livre sur comment Giacometti fonctionne, ou tel autre artiste, ou j'écoutais un galériste parler de Marange dernièrement, je suis tout aux aguets, j'ai l'impression qu'il parle de ma façon de travailler, entre autres, là, ou de façon possible de travailler, ce qui n'est pas le cas pour moi dans le roman ou dans l'essai, tout en y trouvant évidemment des nourritures, du stimulant, là, bien sûr, mais pas au niveau de la démarche. Je pense qu'on part pas de la même du même mouvement de parole, et cette parole-là que j'essaie est pas du tout dans l'idée de se lier vers une narration ou dans un récit, mais plutôt dans cette idée d'objet qui nous permet d'approcher le monde, là.
Alors, merci. Je vous propose de conclure cette rencontre en poésie, donc avec la lecture de quelques poèmes des manivelles.
De certains rêves, nous possédions la langue. Du vide comme d'un amour, nous épuisions l'élan extrême, puis sa désespérance. Nous avions vu la beauté, un orient au cœur des lettres exécutées, mais n'avions pu trouver de réponse au mal qui battait en nous, et ce qui était resté, avec le vent, montait l'éclair. Il nous semblait parfois que nous avions aimé, que nos bras déployés du seul trait des corneilles aspiraient le vent, ses rasades solaires ou liquides, ses insultes aussi. Pour quel espoir, quelle vérité enfouie en nos seules présences? Nous répétions que nous n'existions pas. Nos fronts brûlaient un peu. Nous écoutions la nuit se faire en chaque chose. Les morts amicales ensemble nous pleuraient. Là-bas, nos ongles sont argiles, chevaux des neiges, purs captifs d'abandon. Aimer échappait-il à l'amour? Nous marchions encore longtemps, tel un songe ébloui. Très douce route, feuilletant les ciels inaccomplis, bientôt calme et plus proche l'une de nos mains, se baignait l'inconsolable, l'os. Il n'y avait pas de faute. Oh, cette idée du monde dans le monde, il n'y avait pas de pardon. Remuait les corps vagabonds, la sphère de nos chutes à l'infini. Où était ce vagin des poèmes endormis, l'ancienne forêt de l'être? La forme de chaque feuille était complète. La solitude de chaque ombre était lumière, pure découpe, oubli, silence, d'agonie.
Merci. Merci. Alors, je vais inviter maintenant ceux et celles qui le désirent à s'avancer au micro pour la période de questions, si vous en avez.
Oui. Je vais saisir une perche, pardon, que vous avez tendue au début de votre entretien. Vous disiez... non, sans raison que votre poésie est un peu sort de nulle part, au sens où elle est, les influences sont plutôt subtiles. Enfin, vous avez parlé néanmoins de Paul Celan, qui me semble une influence assez forte au point de vue formel, du dépouillement et tout. Pourtant, il y a chez Paul Celan un poil d'histoire, enfin, qu'on ne retrouve pas nécessairement chez vous. Est-ce que je me trompe? Enfin, quel est le rôle un peu de l'histoire, enfin de ce poids historique? On a l'impression des fois que votre poésie est, surgit de nulle part, enfin, sans contexte historique, sans contexte social nécessairement. J'aimerais vous entendre un peu à ce sujet. Ouais.
Je pense que c'est une remarque qui est très juste, mais qui n'est pas dans un refus de cette histoire. Au contraire, j'ai l'impression que... je participe à ma façon à ce monde-là, et cette façon-là porte la honte, se porte devant ce qui est terrible, devant... mais je peux pas... je n'arrive pas à aborder directement l'histoire des choses. Encore une fois, je dois les défaire et les refaire dans mon monde. Donc... c'est impossible pour moi, jusqu'à présent, d'actualiser, par exemple, même face à des situations terribles, la Deuxième Guerre bon, autour de Ceylan, mais il y a des choses horribles qui se passent actuellement et auxquelles je suis, comme tous, très sensible. Mais je le fais avec les moyens que j'ai, et ces moyens-là vont aller chercher peut-être plus... l'espèce de tremblement qu'on a, chacun, qu'on porte, et essayer de respirer avec ce tremblement-là, malgré tout, en acceptant lucidement qu'on est face au terrible. Je ne sais pas si ça répond. Mais c'est vrai que Paul Celan est un des poètes, pour moi, ben pour beaucoup de toute façon, un des plus importants. Si il fait partie de quand j'ai commencé à écrire donc et à lire un peu en même temps en tâtonnant tout ça, j'ai eu la chance de tomber assez rapidement sur ce poète comme sur Pessoa bon et je trouve que ça m'a ouvert des univers différents de ce qui était proche de moi que je reconnaissais dans la poésie d'ici. Qui m'a influencé tout autant. Bon, Denise Hôtel est là, je lui suis redevable, bien sûr, Pierre, Louise Bouchard, des gens, etc., ou les plus jeunes, Rosalie est ici, etc. Je suis redevable par leur lutte, bien sûr, par le travail qu'ils font et qui me permet, je parlais de continuité tout à l'heure, mais je suis dans la même dynamique, je prends le relais de choses que j'ai... entendu, lu ailleurs ou vu dans une exposition. Mais cela a eu ce curieux effet pour moi de me donner envie, de me permettre surtout de continuer dans ma avec mes matériaux, de ne pas me laisser... donc, je suis resté un peu hors tout. Vous avez... c'est tout à fait juste, mais de pas me laisser prendre dans des familles d'écriture, ce qui est reposant. Bon, c'est reposant d'écrire avec quelqu'un de temps en temps, ça peut être reposant aussi d'appartenir à quelque chose, mais c'était pas dans ma constitution de départ, c'était pas dans mes outils de départ, et des écrivains comme Paul Celan m'ont permis de rester dans cette voie-là, dans le sens de VOIE, là, c'est ça.
Une autre question.
Je voulais vous poser une question sur le rapport entre visuel et littéraire, sur la modalité ou s'il y a une modalité de traduction d'une expression artistique vers l'autre.
Je ne sais pas si on peut parler de traduction, mais de l'ordre du même chez moi. Par exemple, dans le projet Les Tables, j'ai écrit les poèmes en même temps que je faisais des petites peintures. Il y en a 7-8 que j'ai appelées les planches à écrire. Bon, sur l'édition courante, elle est sur la couverture, mais dans un tiré à part, il y en a plusieurs. Et pour moi, c'était tout à fait du même ordre, c'est-à-dire que ce que je faisais avec mes doigts sur les petits cartons était des poèmes, mais des poèmes sans mots, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que je n'étais pas capable d'écrire en mots, de donner en mots ces poèmes-là. Je les mettais en forme, en laissant surgir des formes, comme une espèce de silence vigilant, si vous voulez. Mais je pense que l'inverse aurait pu être vrai. Si j'avais été meilleur en art visuel, j'aurais pu écrire occasionnellement des mots qui seraient venus nommer des choses qui me semblaient à préciser dans mon travail artistique, si ça avait été l'inverse. Mais ça a été toujours, en tout cas jusqu'à présent, toujours un parallèle, sauf dans le cas du livre pour M. Van Skandel, mais là c'est quand même c'est une demande spéciale, disons. Mais si c'est intégré à mon travail, comme actuellement j'ai un projet que je laisse reposer, qui est fait avec des photographies. Bon, il y a peut-être 200 photographies, 80 poèmes, et ça s'est fait en même temps. Et c'est du même ordre pour moi. Les poèmes ont une certaine forme, ont un effet de déchiqueté très relié en même temps ensuite, très centré. Et les photographies, c'est du pareil au même. Donc je pourrais facilement passer d'un à l'autre, encore une fois, si j'étais plus habile dans les arts visuels, sans que ça soit de l'ordre de la traduction, mais plutôt, encore une fois, de la continuité, d'aller explorer autre chose avec d'autres moyens dans ce cas-ci, mais qui me permettent d'avancer dans ce silence-là et peut-être d'en faire un silence confortable plutôt qu'un silence d'enfermement. Je pense que c'est ce que j'essayais de dire, mais comme je vous disais, on est toujours en décalage avec l'écriture. Personne ne sait que je t'aime quand dans le vers qui dit « Écrire fait plus de silence à aimer ». Donc, arriver à ce que se peut, ce silence soit un état paisible et non pas quelque chose de l'enfermement ou de ce qui pèse sur nous ou en nous, et donc ça puisse être un état choisi.
Oui, alors quelque chose qui me touche dans ce que tu as dit, c'est la question de la peur de l'effondrement. Je pense que c'est vrai, tout le monde ressent ça, mais peut-être qu'écrire, c'est se mesurer beaucoup à ça aussi. Et, les vers que je crois que c'est Karim qui a cité, je trouve que c'est magnifique, ça. Il neige dehors, je m'endors tranquille pour ne pas tomber avec elle. Là. Bon. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que pour toi, écrire de la poésie, parce que ce que je comprends, c'est que c'est ça vraiment, c'est pas autre chose, c'est t'avancer le plus loin possible, parce qu'il y a, une sorte de vertige là-dedans, et quand on te lit et qu'on t'entend aussi, on entend ça, est-ce que c'est une manière de t'avancer le plus près possible du précipice? Et est-ce que, ou est-ce que c'est, mais c'est pas contradictoire, une manière de construire comme un garde-fou? Est-ce que le poème te mène tout près de l'effondrement ou au contraire te retient de t'effondrer?
Je pense qu'il y a les deux. Il y a vraiment, oui. Vous avez raison, tout à fait les deux. Il y a même des choses formelles qui servent à la fois à pousser davantage la parole à éviter de sombrer avec elle. Je me souviens d'avoir choisi le dernier poème des Manivelles, de l'avoir placé très rapidement à la fin pour cette raison-là. C'était un poème pour moi qui, tout en ayant ce rythme des Manivelles, posait autrement les derniers vers dans quelque chose de plus marqué. Ouvrait la possibilité, bon, on parle de poèmes endormis, de vagins, de poèmes endormis, ouvrait vers d'autres paroles, mais je l'ai placé là parce que ces vers plus marqués dans le silence étaient justement de l'ordre du garde-fou. J'allais être emporté, les Manivelles, ça a été... j'ai écrit tellement de poèmes et tellement détruit de poèmes dans ce recueil-là... tellement cassé de choses, repris, jeté, recommencé. Mais c'était un mouvement qui aurait pu m'emporter totalement. Alors oui, il y a dans l'écriture des choses comme ça. Mais dans le fait même d'écrire, on se place toujours davantage proche de la blessure. Toujours, on pousse le risque pour s'approcher plus de soi, pour essayer de comprendre ce qu'on est dans le monde, ce qui est ce monde autour de nous, toujours. Donc c'est un travail... contrairement à ce que peut-être on voit beaucoup dans la société, le divertissement, tout ça, on est beaucoup au contraire dans s'approcher le plus possible. Mais l'écriture donne cette distance qui évite d'être emporté. Je vais pas donner un exemple en poésie, mais je me souviens dans le journal de Etty Hillesum, pour ceux qui l'ont lu, elle est donc dans un camp, je pense que c'est une espèce de camp transitoire, mais c'est pas tout à fait un camp de concentration, mais elle est avec d'autres femmes, des enfants, et c'est une situation de toute façon aussi terrible, aussi inhumaine, et à ce moment-là, elle peut écrire encore son journal, et le fait d'écrire, elle est complètement dans la souffrance qui se passe autour d'elle. Elle la nomme, elle la décrit, elle la réfléchit aussi avec. Et ce qu'elle voit, c'est que les femmes autour d'elle, bon, c'est un camp de femmes, qui n'ont pas de moyens pour affronter cette souffrance et cette injustice. Elles deviennent folles, elle le dit carrément. C'est la folie qui s'empare des gens. Ou c'est l'autodestruction, ou c'est cette violence qu'on reporte sur l'autre parce qu'on peut pas la supporter soi-même. C'est peut-être tout ça, la poésie, c'est-à-dire, oui, approcher la blessure pour aller davantage vers... parce qu'en fait, on est concernés tous par la vérité. Mais on a le choix de tout oublier ou le choix d'accepter qu'on va être dans le doute toute sa vie. Et même si on s'appuie sur des religions ou sur des idéologies, si on est honnête, le doute de qu'est-ce qu'on fait ici va se poser à travers ça quand même. Donc on approche ça et on est conscient de la vie qu'on mène ou on s'en divertit totalement, mais on en a juste une, alors on a un choix un peu réduit. Mais oui, pour moi, c'est ce rapport de... à la fois de risquer et à la fois d'avoir trouvé peut-être une forme qui permet le risque, qui emporte pas tout. Ouais.
Alors, merci infiniment, Martine Audet, d'avoir partagé de façon risquée cette réflexion sur la poésie et cette rencontre s'arrête ici en ce qui nous concerne. Merci d'être venu, merci de votre écoute.
Ouais, merci beaucoup.